Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
J'ai un thème qui est d'actualité.
Et
eh bien, puisque nous sommes le jeudi de l'ascension, on va parler de l'ascension de Christ. Et on va voir ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça signifie par rapport à Jésus, sa position. Et par rapport à nous aussi. Regardons ensemble. Acte chapitre 1.
Turabire hamwe ivyakoze n'umwe kigabane cya mbere.
Acte chapitre 1.
Ivyakoze n'umwe kigabane cya mbere.
Verset 9 à 11.
Murongo w'icenda gushika kwa 11.
Il est dit après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils les regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. »
Bagihanze amaso mu ijuru akigenda abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru uyo Yesu abakuwemo akaduza mu ijuru azoza cyo nkuko mumubonye aja mu ijuru.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'ascension de Christ. Nous avons deux autres passages parallèles que nous allons lire brièvement. Luc 24,
51.
Il est dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Luc
24, 51.
Marc 16, verset 19, nous dit, Marc 16, 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Donc finalement, ça se passe juste après 3 ans et demi de ministère. Jésus a eu un impact absolument extraordinaire sur tout le territoire d'Israël. La première partie de la raison d'être de la venue de Christ sur la terre s'était accomplie. Jésus avait visité tous les villages. Il avait guéri les malades. Il avait délivré les démoniaques. Il avait enseigné, il avait prêché, il avait fait les œuvres du Père. Donc pendant 3 ans et demi, il fait ça. Au bout des 3 ans et demi, Jésus passe à la deuxième phase, à la deuxième partie du plan du Père. C'était bien sûr de pouvoir nous racheter. Donc finalement, Jésus accepte de se donner en sacrifice, en rançon pour l'humanité. Légalement, il prend notre place sur cette horrible croix du calvaire. C'est là où il est fait péché. C'est là où il est fait pauvreté. C'est là où il est fait maladie. D'une manière général, c'est là où il va être fait malédiction. Pourquoi? Pour nous donner la bénédiction, pour que nous puissions hériter la bénédiction. Donc Jésus fait son sacrifice, il meurt, son esprit et son âme descendent dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, qui était un endroit où tous ceux qui croyaient en Dieu qui n'avaient pas encore accès à la nouvelle naissance se trouvaient. Il y avait des gens comme
Abraham,
comme Moïse,
Mose,
et comme tous ceux qui croyaient en Dieu,
mais
qui ne pouvaient pas naître de nouveau,
et
qui, quand ils mouraient physiquement, ne pouvaient pas monter au ciel
directement.
Donc Jésus va dans cet endroit-là, et finalement, bien sûr, il ressuscite glorieusement. Le Saint-Esprit vient visiter cet endroit, redonne la vie à l'Esprit de Jésus, et Jésus va ressusciter. Et c'est de là qu'il va commencer à se passer un certain nombre de choses. Parce que notre rachat est exécuté, Christ est mort, il est ressuscité, il va nous donner tout un tas de choses au travers de son sacrifice, mais il va y avoir un certain nombre d'événements avant que ces choses puissent nous être transmises. Alors quand on continue à lire les évangiles, vous voyez bien que les quatre évangiles se terminent à la résurrection de Christ, et quelques-uns parlent un tout petit peu de son ascension. Jésus retourne au ciel. Et on a un verset par évangile, hein, on l'a vu dans Luc, on l'a vu dans Marc. Par contre, on a un peu plus de précision dans les Actes des Apôtres. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ascension? Parce que vous savez, c'est une fête que les églises traditionnelles célèbrent. Et une ascension, c'est quoi? C'est monter en haut. Hein. De toute façon, on ne peut toujours que monter en haut. Et en fait, monter vers le ciel, hein, si par exemple vous montez une montagne, on dit qu'on fait l'ascension sur cette montagne. Tout simplement, on monte. Donc il n'y a rien d'autre que cela veut dire. Mais il faut que vous sachiez une chose. Depuis la résurrection, ce n'était pas la première fois que Jésus allait au ciel. Ce qu'on appelle l'ascension d'une manière générale, c'est là où Jésus est définitivement monté au ciel et qu'il s'est assis à la droite du Père. Et depuis ce temps-là, nous verrons que Jésus a hérité d'un ministère céleste. Entre-temps, il s'est passé un certain nombre d'événements que peu de gens connaissent. Alors on va essayer de découvrir un certain nombre de choses dans les Écritures. Parce que c'est vraiment passionnant. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, donc rappelez-vous, Jésus était 100% Dieu, mais 100% homme aussi. Donc quand Jésus est mort, je vous ai montré que son esprit et son âme sont descendus dans le sein d'Abraham. Lorsque le Saint-Esprit a visité cet endroit, c'est ce que la Bible nous montre dans la première épître de Pierre, qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit, et Jésus est sorti du tombeau. C'est-à-dire que son esprit et son âme sont sortis du sein d'Abraham et sont retournés dans son corps. Mais là, il s'est passé quelque chose de très particulier. La résurrection de Jésus est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on va lire quelques passages qui vont nous donner quelques clés pour mieux comprendre la résurrection de Christ et ce qui s'est passé après. Regardons dans Jean chapitre 20, versets 11 à 16. Jésus était déjà ressuscité, c'était le dimanche, et en fait on voit qu'il va y avoir Marie, il va y avoir Simon, donc Pierre, et puis il y a Jean, qui vont aller jeter un coup d'œil au tombeau. Ils s'approchent du tombeau. Les évangiles nous rapportent d'une façon un peu différente cet événement. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est la réaction de Marie. Ils s'aperçoivent que le tombeau est vide.
yachiabona yuko imfa igaragara.
Et ces trois personnes
abo bantu batatu
vont penser
bacabiyumvira
que il y a quelqu'un qui a dû voler le corps de Jésus.
Yuko kumbure hari umuntu yamwivye umutumba wiwe.
Vous savez, autour de la mort de Jésus,
murazi kuvyerekeranya n'urupfu rwa Yesu,
il y avait beaucoup de pression.
Hariyo ibintu vyinshi.
Et il y avait bien sûr les Romains
nabo,
qui commençaient à en avoir assez
bavuga,
parce que Jésus attirait des foules.
Kuko Yesu yarakwega abantu.
Et quand il y a une armée d'occupation dans un pays
rero, ingabozo hanze
et qu'une personne réunit de trop grandes foules,
rero, umunu, abantu benshi chane,
il y a toujours la suspicion.
Makenga.
Ça crée beaucoup de suspicion.
Rero makenga.
Dis, qu'est-ce qu'ils disent dans ces endroits-là?
Bakavuga,
ils sont des milliers ensemble.
Ibiki,
et donc ça crée de la suspicion. À côté de ça, il y avait les Juifs qui voulaient absolument se débarrasser de Jésus. Ils en avaient assez. Jésus les remettait en question et leur montrait clairement qu'il était Dieu le Fils, celui en qui ils devaient croire. Mais leur cœur fermé avait refusé d'accepter le Seigneur. Donc, au bout d'un moment, bien sûr, ils l'ont crucifié. Et autour donc, de la mort de Jésus, il y avait beaucoup de rumeurs et de spéculations. Jésus avait déclaré qu'il ressusciterait. Mais les gens ne croyaient pas à ça. Ils ne le croyaient pas. Et finalement, quand ces trois disciples sont arrivés là,
et
bien, au bout d'un moment, certains se sont demandé si le corps de Jésus n'avait pas été enlevé, volé. Et il est dit, verset 11 de Jean, chapitre 20, verset 11, cependant Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur, je ne sais où on l'a mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Regardez bien la suite du verset. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, regardez bien ça aussi. Elle dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, ou monsieur, hein, Seigneur, c'est peut-être pas la meilleure traduction, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. On va lire ensemble après au verset 17 et on lira à partir du verset 17 en Kirundi. Jésus lui dit, regardez bien là encore, regardez bien les différentes choses qu'il est dit dans ce
texte.
Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et vers votre Dieu.
Ariko genda kwa bene data obabarire utagira duge kwase ari woso utikumana yiwe ariyo mana yanyu.
Qu'est-ce que Jésus dit ici?
Mbega Yesu avuga iki hano?
D'abord on remarque une chose.
Aha tubona ikintu kimwe.
Marie ne reconnaît pas Jésus.
Maria ntabwo yamenye Yesu.
Physiquement.
Mu buryo bwo kumubonesha umubiri.
C'est étonnant.
Ivyo biratangaje.
Pendant 3 ans et demi.
Mu myaka 3 n'inusu.
Ils ont vu le Seigneur.
Barabonaga Yesu.
Faire plein de choses.
Akora ibintu byinshi.
Et puis là?
Aho rero.
D'un seul coup.
Abonye mukanya gato.
Qui est ce monsieur?
Ati mbega uyu mugabo ninde?
Est-ce que c'est le jardinier?
Mbega n'umunyarupangu.
Qui est-il?
Mbega ninde?
Marie ne le reconnaissait pas.
Nawe ntabwo yamumenye.
Donc il est clair que en apparence,
ubiravye rero ko yasa.
Jésus avait changé.
Yesu yari yahindutse.
Sinon elle l'aurait reconnu.
Kuko yacyamumenya.
Sinon elle l'aurait reconnu.
Kuko ataruko yacyamumenya.
C'était évident.
Ivyari bitomoye.
La deuxième chose que nous remarquons,
icyakabiri nacyo tubona,
c'est que Jésus dit une chose importante.
Nuko Yesu avuga ikintu gikomeye.
Il dit ne me touche pas.
Avuga ati ntunkoreko.
Parce que
kuko
je ne suis pas encore monté
araduga
vers mon Père.
Kwa data.
Et Jésus va monter vers le Père. Et on va voir qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là. À côté de ça, si vous continuez à lire ce chapitre, vous verrez que Jésus va apparaître à ses disciples. Dans Jean, toujours chapitre 20, versets 20 à 22, Jésus apparaît à ses disciples après que Marie témoignait de cela. Et il va les faire naître de nouveau. Nous avons déjà étudié ce passage. Mais il y a Thomas qui vient après. Et les disciples sont tout excités, tout joyeux en disant, on a vu Jésus ressuscité, il est vivant. Et finalement, Thomas dit un.
Ahorero Thomas ravuga ati oya.
Moi un.
Oya sha.
Je veux te voir et toucher.
Ngomba kumubona ndamwikora korere.
Et si vous lisez la suite,
musomye ibikurikira.
Vous verrez que Thomas va toucher Jésus.
Muzobona yuko Thomas yakoze ko Yesu.
Alors qu'avant,
mugabo mbere,
juste après sa résurrection,
imbere yuko azuka, amaze kuzuka gato.
Jésus dit,
Yesu aravuga.
À Marie, ne me touche pas.
Abwira Maria ati ntunkoreko.
Et lui en donne la raison.
Kandi aravuga igituma.
Parce que je ne suis pas monté vers
Dieu. Kuko ntaraduga kwa data.
Donc il est évident qu'entre temps, Jésus est monté vers le Père. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que c'est sa première ascension, entre guillemets. C'est pour ça quand on parle de l'ascension de Christ, il faut distinguer l'ascension définitive de Christ où Christ va s'asseoir définitivement.
Mutegereza kubitandukanya nimba bari ko aravuga rero igihe Kristo yaduga ubwa nyuma agiye kwicara ku ntebe
à la droite du Père
iburyo bwa data.
Et le moment où il est déjà monté au ciel. Juste après sa résurrection. Parce que ça c'est différent.
Et
bien la Bible va nous montrer une chose. Lorsque Jésus va ressusciter, il va monter juste après au ciel. Non pas pour s'asseoir à la droite du Père. Dans une position d'autorité. Mais il va aller sceller notre alliance par son sang. C'est là où la Bible nous montre que Christ va traverser les cieux pour aller offrir son sang. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre
4.
Hébreux chapitre
4,
verset 14. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement dans notre confession de foi.
En
parallèle, nous allons lire Hébreux chapitre 9, versets 12 à
15.
Hébreux 9, 12 à 15. Voyons à partir du verset 11 d'ailleurs. Il est dit, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est-à-dire que c'est une création céleste. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et c'est ainsi qu'il a obtenu pour nous une rédemption, un rachat éternel.
Ariko Kristo amaze kuza umuherezi mukuru w'ivyiza bizoza aca mwihema rirushe ryarindi kubirihambaye n'iritunganye gose ritakozwe n'intoke bisobanurwa ngo ritari iryo mu byaremwe vyubu no kuvuga n'ivyijuru kandi amaraso y'impene canka y'amashuri siyo yamushikanye ahera cyane ariko yahashikanywe nayiwe maraso rimwe gusa yironkeye ugucungura kw'ibihe bidashira.
Donc, nous nous apercevons d'une chose. C'est qu'au moment où Jésus va ressusciter, Jésus va monter vers son Père, va faire une ascension. Et il va faire l'office du souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une expression qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur était le responsable des sacrificateurs. Et il représentait le peuple auprès de Dieu. Dans la loi de Moïse, ils venaient avec leurs animaux, ils faisaient couler du sang, et c'était le souverain sacrificateur qui avait le droit, avec les sacrificateurs, de pouvoir s'approcher de la présence de Dieu pour offrir ce sang, le sang des animaux. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais la Bible nous montre que l'ancienne alliance était l'ombre, l'ombre de ce que Jésus a réalisé. Jésus, lui, était à la fois le sacrifice et à la fois le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Donc il n'a pas fait ça avec des choses matérielles, mais il a traversé les cieux pour pouvoir offrir son sang dans la présence même du Père, pour sceller ton alliance et mon alliance. C'est ce que Jésus a fait juste après sa résurrection.
résurrection.
C'est alors qu'il est monté au ciel pour offrir son sang. Et entre le moment où Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est monté au ciel, donc il a fait son ascension définitive,
et
bien il va y avoir un certain nombre de jours. Et dans cette période, Christ va apparaître. La Bible nous le dit dans 1 Corinthiens 15, on n'a pas le temps de lire ce passage. Mais Jésus est apparu aux disciples.
Et
la Bible nous dit même qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Pendant cette période, Jésus est apparu à un certain nombre de gens pour que ces personnes puissent être des témoins oculaires. Pour pas qu'on vienne dire, vous, les quelques personnes, là, soi-disant, vous avez eu des visions, vous avez eu des choses que Dieu vous a dites. Mais est-ce qu'on peut croire une petite poignée de personnes? Non, Jésus avait besoin de témoins oculaires de sa résurrection. Vous pourrez lire ça en début des Actes des Apôtres. Et même au début de la première épître de Jean. Jésus avait besoin de témoins oculaires. Et il est clair qu'entre-temps, entre ces apparitions, Jésus ne vivait plus sur la terre après la résurrection. Mais il est clair qu'il est monté, qu'il est descendu. Donc finalement, il n'y a pas eu une ascension, mais des ascensions.
Amen.
Il est apparu, donc il descendait sur terre pour apparaître.
Et
il remontait au ciel. Et il redescendait. Et il remontait. Pour apparaître. Mais il y a un moment où Jésus, finalement, a fait la dernière ascension. Et c'est celle qui nous est rapportée dans les textes que nous avons lus tout au début, à la fin des évangiles et au début des Actes des Apôtres. C'est là où
Christ
va définitivement s'asseoir à la droite du Père. Alors vous savez, dans certaines religions traditionnelles, on dit oui, il s'est assis à la droite du Père. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Vous savez cette expression, littéralement, ça veut dire à la main droite du Père. Et ce n'est pas une position physique. C'est une position d'autorité, c'est ça que ça veut dire.
Christ,
dans son ascension définitive, va faire quoi? Il va s'asseoir dans une position d'autorité. Et cette ascension va faire quelque chose de particulier. D'abord, une chose qu'on peut remarquer, qui est un peu étonnante, mais je vais faire une petite parenthèse parce que c'est vraiment intéressant. Vous savez, l'apôtre Jean était l'apôtre le plus proche de Jésus. Hein, souvent, il se dénomme dans les évangiles celui que Jésus aimait. Et nous savons que c'est Jean. Jean a vécu très proche. Jean, dans tous ses écrits, insiste très largement sur la relation d'amour avec Jésus. Les écrits de Jean, vous savez, sont des écrits les plus simples de la Bible. Jean était quelqu'un de très simple. Il n'était pas très éduqué. Mais c'était un homme qui aimait la relation avec Dieu. Ça nous est rapporté constamment dans les évangiles. Il nous donne une facette avec son évangile que les autres évangélistes ne nous donnent pas. Mais le moment où Christ apparaît, juste dans Jean chapitre 20, Jésus arrive au milieu de ses disciples, apparaît au milieu de ses disciples. Là, les disciples louent et adorent Jésus. Ils naissent de
de nouveau. Et donc Jean va faire cette expérience avec le Seigneur ressuscité. Mais à la fin de son évangile, il va encore faire une expérience avec le Seigneur ressuscité. Tout près du lac. Ils sont retournés à pêcher leurs poissons. Et Jésus va être là. Et ils vont vivre quelque chose de particulier avec le Seigneur. Mais regardez maintenant. Bien plus tard, plus de 60 ans plus tard, Jean va avoir une apparition de Jésus. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 1. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, c'est absolument extraordinaire la façon dont Jean va nous rapporter son expérience. Jean va recevoir une vision de Jésus. Et il est dit, Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises. Bon, il nomme les sept églises. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jean est absolument étonné de cette vision. Qui lui apparaît ici? Jésus. Mais regardez un peu la différence. Jésus lui est apparu. Dans Jean chapitre 20. Jésus ressuscité lui est apparu dans Jean chapitre 20. Jésus ressuscité lui est apparu aussi à la fin de l'évangile, au chapitre 22. Si vous
vous souvenez son mot.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, après, chapitre 21, excusez-moi, de l'évangile de Jean. Et après, bien des années plus tard, 60 ans plus tard, Jésus lui apparaît encore. Mais là, on a l'impression que Jean est complètement submergé par cette vision. Il est complètement ébahi. Il ne sait plus quoi dire devant cette vision, tellement cette vision est glorieuse. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une différence entre Jésus ressuscité et Jésus glorifié. Parce que quand Jésus a fait sa dernière ascension définitive, là où il s'est assis à la droite du Père, c'est là où Jésus a été glorifié. C'est là où Jésus a été glorifié. Et depuis ce temps-là, il est clair que pour Jésus, il y a eu quelque chose de spécial dans le ciel. Parce que quand il va apparaître, sa gloire est éclatante d'une manière extraordinaire. Et Jésus, à ce moment-là, a été dit glorifié. Lorsque Jésus va faire son ascension définitive, c'est à ce moment-là où dans le ciel, il va recevoir un ministère céleste. Vous savez, moi, pendant des années, je pensais que Jésus était assis à la droite du Père et qu'après, il attendait. Il était là, assis, à observer la terre et observer les hommes et à attendre. Non, Jésus a un ministère. Il a un ministère céleste. Et la Bible nous en parle. La Bible va nous parler de cinq facettes de ce ministère. Jésus glorifié dans le ciel a un ministère. Il a un ministère actuel.
gikorwa akora ubu.
Il y a cinq facettes de ce ministère.
Kandi hariyo novuga ibice bitanu vy'ico gikorwa
tubona. Je vais résumer brièvement.
Nivyo tugomba guca ku mayange.
Mais ce que j'aimerais c'est que vous compreniez quelque chose.
Icyo nagomba nuko mutahura ikintu kimwe.
Vous savez, il y a beaucoup de commentaires qui ont été dit.
Muraza ari ibintu vyinshi vyavuzwe.
Sur cet aspect.
Ku vyerekeranya n'ivyo.
Ou par exemple, Jésus dit à ses disciples.
Aho Yesu abwira abigisha biwe.
Oui, vous restez à Jérusalem. Attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Et après, vous pourrez aller pour continuer mon œuvre. Ça
ne
vous a jamais interpellé ce temps? Pourquoi ce temps? Pourquoi Jésus leur dit d'attendre? Pourquoi est-ce que, dès la résurrection, les disciples n'auraient pas pu partir et annoncer l'évangile par toute la terre? Vous allez me dire, oui, mais ils devaient d'abord avoir une onction. D'accord.
Ego.
Ça peut être en partie vrai. Mais à propos du baptême du Saint-Esprit, c'est quand même quelque chose pour tous les chrétiens. Il faut comprendre quelque chose. Lorsque Jésus a été glorifié, que Jésus a fait sa dernière ascension, qu'il s'est assis définitivement à la droite du Père, il a reçu ce ministère céleste. Et c'est à ce moment-là où les hommes ont pu, nous sommes sur la terre, rappelez-vous d'une chose. Il est la tête du corps. Jésus n'a pas donné les ministères avant d'avoir été glorifié. Jésus n'a pas donné les ministères juste après sa résurrection. Mais il a donné les ministères quand il a fait sa dernière ascension, qu'il a été glorifié. Et il y a bien une période entre le moment où il est ressuscité et le moment où il a été glorifié, où dans le ciel il s'est passé un certain nombre de choses dont nous n'avons pas tous les détails, mais qui ont permis maintenant à ce que les ministères puissent naître, que différentes onctions puissent être effectives sur la terre, comme celle du baptême du Saint-Esprit, comme celle des ministères d'une manière générale sous la nouvelle alliance, puisque ça n'a pas été donné tout de suite après la résurrection. Donc au travers de cette ascension, de la glorification du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un certain nombre de choses disponibles. La prière au nom de Jésus a pu devenir légale. Et Jésus leur dit d'attendre. Parce qu'il y avait des choses qui devaient se passer avant. Ces choses se sont passées. Et à partir de ce moment-là, quand Jésus fut glorifié, il y avait tout un tas de choses qui ont été rendues disponibles selon l'héritage que Christ nous a fait. Et quand on regarde un peu les Écritures, on pourrait prendre donc l'exemple des cinq facettes du ministère actuel de Christ. Et je vais brièvement passer dessus. Il est dit que Jésus est un intercesseur. Qu'il intercède. Rappelez-vous, Jésus est dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que l'intercession? L'intercession, c'est éviter le jugement sur quelqu'un qui est coupable. À chaque fois qu'une personne s'approche de
Christ,
pour la toute première fois, cette personne est dans ses péchés. Quand cette personne vient, elle est coupable de ses péchés. Mais elle entend le message de l'évangile, de la bonne nouvelle de
Christ.
Elle est touchée dans son cœur. Et à ce moment-là, elle commence pour la toute première fois à s'adresser à Dieu. Pour lui demander pardon et pour recevoir Christ comme son sauveur
personnel.
Mais cette personne, elle n'a aucun droit de venir auprès de Dieu parce qu'elle est coupable. Et c'est à ce moment-là que
Christ,
dans son ministère céleste, reçoit la requête de cette personne, plaide la cause de cette personne auprès du Père, en montrant l'alliance faite par le sang. Et à ce moment-là, le Père dans le ciel dit acquitté. Le jugement est écarté. Et ça, c'est une des facettes du ministère de Christ. Une deuxième facette, c'est l'aspect de médiation. Un médiateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se met entre deux parties. Qui fait la liaison entre deux parties. Et quand vous priez, Père au nom de Jésus, sachez une chose, Jésus reçoit la prière,
il
la présente au Père, il fait son rôle d'intermédiaire. Dans la nouvelle alliance, tout se passe au travers du nom de Jésus. En dehors du nom de Jésus, nous n'avons absolument aucun droit légal spirituel. Quand est-ce que ça a pu se produire? Le jour où Christ était déjà à la droite du Père. Au moment de son ascension définitive. Au moment de son ascension définitive. Le souverain sacrificateur. Jésus exerce ce ministère. C'est quand il va purifier la personne qui s'approche pour la première fois de
Christ,
mais aussi un chrétien qui a péché et qui demande pardon au Seigneur. À ce moment-là, Jésus exerce ce ministère où il va purifier. Bon berger. Un berger, c'est celui qui dirige. Il dirige ses brebis. Et Jésus est le bon berger. Jésus parle à son église. Il dirige son église. Il s'occupe de son église. Et ceux qu'il a mis comme pasteur sur son église sont ce qu'on appelle des sous-bergers. C'est-à-dire que nous recevons les instructions du Seigneur pour pouvoir paître l'église de Dieu. Mais nous dépendons du bon berger, du grand berger, du souverain berger qui parle à son corps. Jésus, notre avocat. La Bible nous montre dans la première épître de Jean que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est quelqu'un qui plaide, mais aussi qui est consolateur, qui nous aide, qui nous conseille. C'est du côté du péché, mais pas seulement non plus. C'est celui qui essaye de nous montrer la bonne façon, ce que nous devons faire, et qui transmet par le Saint-Esprit ces choses. Donc ça, c'est une chose que Christ a faite depuis son ascension. Sa position dans son ministère actuel. Il y a d'autres bénéfices, bien sûr. L'autre bénéfice, c'est que nous pouvons profiter du nom qui est au-dessus de tout nom. Quand nous remarquons Marc 16, Marc 16, verset 17 à 19, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ça, nous connaissons ce passage. Nous connaissons bien ce passage. Mais regardez tout de suite le verset d'après. Il est dit, le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Donc, il est clair que quand Jésus a donné ses instructions, c'était juste avant de repartir définitivement au ciel. Parce que c'est à ce moment-là où ces choses ont pu devenir effectives. Où l'autorité que le corps de Christ a en Jésus, par le nom qui est au-dessus de tout nom, a été rendu effective quand Jésus s'est définitivement assis à la droite du Père. D'ailleurs, Vous remarquerez que pendant cette période où Jésus n'était pas encore retourné à la droite du Père, les disciples n'ont fait aucun miracle, le baptême du Saint-Esprit n'était pas effectif, toutes ces choses n'étaient pas là encore. Elles ont été effectives au moment où Jésus était à la droite du Père, où l'ascension a été faite, l'ascension définitive de Christ. Nous avons remarqué aussi que l'ascension a permis la naissance des ministères. Avant l'ascension de Christ, les ministères ne pouvaient pas être effectifs. L'onction du ministère n'a pas pu être donnée. Elle sera donnée juste après. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Mais l'onction du ministère ne sera pas donnée juste à la résurrection, juste après la résurrection, le jour même d'après la résurrection. Mais ça sera juste après l'ascension. Et finalement, d'une manière générale, c'est grâce à l'ascension de Christ. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Je vous donnerai un autre consolateur. Mais d'abord, il a fallu que le premier consolateur retourne au ciel définitivement pour que l'autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, puisse venir se répandre sur la terre. Et c'est à ce moment-là que la dispensation du Saint-Esprit a pu se faire. Et d'abord, le premier consolateur est reparti. Définitivement, à la droite du Père, pour que l'autre consolateur, il vous est avantageux que je m'en aille, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer un autre consolateur. Et c'est ce que Jésus a fait. Mais d'abord, il a fallu que Jésus puisse définitivement s'asseoir à la droite du Père. S'asseoir à la droite du Père. Être glorifié après avoir parfaitement accompli sa mission sur la terre. C'est ce que Dieu avait prévu. Jésus a tout rempli. Il a rempli à 100% sa mission. Mais c'est au travers de son ascension que ces choses là sont devenues effectives. C'est au travers de sa mort et de sa résurrection que ces choses-là ont été rendues possibles. Mais c'est au travers de son ascension définitive que ces choses-là ont pu être effectives, c'est-à-dire elles ont été mises en application. C'est ce qui fait la différence. Et c'est ce que je voulais partager ce matin avec vous pour que vous puissiez comprendre que cette fête souvent que les chrétiens font a bien avant tout un but spirituel à 100%. Parce que c'est ce que Dieu avait prévu. Que l'ascension de Christ définitive puisse rendre effective exactement ce que Dieu avait réalisé en Christ. Nous allons prier ensemble. Père, merci. Merci d'avoir envoyé Jésus. Merci Jésus d'avoir obéi, d'avoir accepté de venir. D'abord pour montrer l'amour du Père, mais aussi pour te donner en sacrifice. En sacrifice pour nous. Pour nous, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu es mort, mais aussi tu es ressuscité. Pour nous donner la vie, pour nous donner toutes choses avec toi. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Merci parce que tu as touché nos vies. Tu as changé nos vies. Parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es retourné à la droite du Père dans une position d'autorité. Oh, merci, Seigneur. Parce qu'au travers de cette ascension, au travers de cette assise à la droite du Père, tu as pu donner à prendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Ton esprit qui fait naître de nouveau celui qui se repent sincèrement.
et qui t'accepte comme sauveur personnel. Ton merveilleux Saint-Esprit qui baptise avec la manifestation du parler en
langue.
Ton merveilleux Saint-Esprit qui donne le ministère. Ton merveilleux Saint-Esprit qui donne la paix.